Bonjour madame, je vais vous présenter mon oral de français sur Des coches de Montaigne, un texte de 1580. Donc je vais d'abord vous le lire. Notre monde vient d'en trouver un autre, et qui nous garantit que c'est le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous avons ignoré celui-ci jusqu'à cette heure. Non moins grand, plein et membru que lui, toutefois si nouveau et si enfant, qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesures, ni vêtements, ni céréales et ni vignes. Il était encore tout nu, au giron, et ne vivait que par les moyens de sa mère nourrice. Si nous concluons bien de notre fin et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie, l'un des deux membres sera perclus, l'autre en vigueur. Bien crains-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts, c'était un monde enfant. Si nous ne nous l'avons pas fouetté et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et de nos forces naturelles, ni ne l'avons pratiqué par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité, la plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturelle et pertinence. L'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico est, entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont un jardin, étaient excellemment formés en or. Comme, en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mers, et la beauté de leur ouvrage en pierreries, en plumes, en coton, en la peinture, montre qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Mais quant à la dévotion, l'observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas autant qu'eux. Ils se sont perdus par cet avantage, et vendus et trahis eux-mêmes. Ce texte est écrit par Montaigne, donc il est paru en 1580, et je vais vous parler en quelques phrases de Montaigne. Alors c'est un écrivain français et philosophe, il est né en 1533 et mort en 1592. Et ce chapitre est un extrait des Essais, dont il est connu pour cet ouvrage. Son idée était de essayer sa pensée par ses essais. C'est alors que dans ses textes, il expose un récit argumenté où ses idées sont expliquées. Il exprime son point de vue ainsi que ses jugements vis-à-vis de la société, etc. Dans celui que je vais parler aujourd'hui, il se sert de l'année 1492, donc avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, pour parler de tolérance, car c'est un grand humaniste, et il est contre l'intolérance européenne, et il est pour le principe du relativisme. Bon, je vais ensuite passer à l'explication linéaire. Donc après la lecture de ce texte, j'ai vu quatre mouvements, j'ai remarqué quatre mouvements. Tout d'abord de la ligne 1 à la ligne 9, le ressenti des Européens sur le Nouveau Monde, exprimé par Montaigne. Ensuite de la ligne 10 à 14, j'ai mis une éloge de la bonté des Européens. Ensuite 15 à 22, importante démonstration que les sauvages avaient rien à nous envier, que... Par des extraits de Montaigne, et de 22 jusqu'à la fin, une conclusion, comment les Européens ont réussi à conquérir ce nouveau monde et par quels moyens, etc. Donc à la ligne 1, Montaigne plante le décor avec notre monde vient d'en découvrir un autre, qui est déjà une phrase très importante, parce qu'il exprime un sentiment d'appartenance avec notre monde, et dès le début, je trouve qu'il dit directement que c'est deux mondes très distincts et que C'est pas le même que nous, c'est un autre. Donc il y a déjà un sentiment de contraire entre ces deux mondes. Ensuite, dès le début du texte, viennent des parenthèses. Donc j'ai interprété ça comme les pensées internes de Montaigne. Il nous invite à réfléchir avec lui sur ses idées. Donc là, il se demande comment personne n'a pu connaître ou mis les pieds en ce nouveau monde si grand et si important. Il remet en question donc toutes les connaissances acquises à l'époque et exprime un champ lexical de la divinité avec des démons et des sibylles qui n'auraient pas connu ce nouveau monde non plus et qui ignoraient l'existence. À la fin de ces parenthèses, la phrase ne s'arrête pas là et il continue par une série d'adjectifs comme non moins grand, plein et membru qui encore caractérise ce nouveau monde. Il dit là que ce monde est différent dans le fond, mais pas dans la forme, car il est aussi important que l'Europe et aussi grand, etc. La phrase non moins grand est une litote, car il exprime un sentiment de. Il essaye de faire passer plus simplement une idée. Au lieu de dire il était aussi grand ou pareil, il dit il était non moins grand. Après ces adjectifs viennent un point-virgule qui marque comme une pause dans cette phrase, mais qui ne s'arrête cependant pas. Avec toutefois si nouveau et si enfant. Alors c'est le début d'une longue métaphore filée qui agira tout le texte, qu'on retrouvera et que je reciterai, mais voilà, c'est le début avec une métaphore sur le nouveau monde qui serait comme un enfant ou qui appartiendrait ou qui dont la mère serait le monde des Européens. On peut voir cette métaphore avec qu'on lui apprend son ABC, donc comme à un enfant. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesures, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. Cette série de négations, excusez-moi, cette énumération d'adjectifs montre qu'il était vraiment enfant et que il fallait encore tout lui apprendre. Et tout devant tous ces noms et toutes ces choses qu'il fallait apprendre, il y a la préposition ni comme une négation pour exprimer encore le sentiment que ça n'est pas le même et que c'est une appartenance et pas un égal au monde européen. À la ligne 5, une nouvelle phrase commence et la métaphore de l'enfance continue avec il était encore tout nu, donc comme un enfant, au giron, c'est au sein de sa mère et il ne vivait que par sa mère nourrice, donc on comprend bien que Montaigne veut montrer jusqu'au bout cette métaphore de l'enfance comme le nouveau monde est un enfant. Ensuite, l'utilisation du verbe conclure est importante car c'est presque au début du texte, c'est toujours dans les premières phrases du texte que Montaigne utilise le verbe conclure. Donc je vois ça comme une sorte de conclusion du mouvement ou pour comme s'il se parlait à lui-même pour conclure ses idées. Donc il dit que quand le nouveau monde entrera à la lumière, donc il y a un oxymore entre perclus et vigueur, et lumière et l'univers tombera en paralysie. C'est comme une sorte de paralysme de construction, je pense, ou un chiasme. Mais Montaigne veut dire que si l'un est à la lumière et si il a toutes les richesses, l'autre ne pourra pas également monter et être reconnu par le monde, etc. Mais cependant, je pense qu'il veut aussi dire que lorsque le monde européen périra ou perdra de ses richesses, et ben c'est le nouveau monde qui entrera en lumière dans le monde, justement. Dans le paragraphe suivant, la ligne 10, nous avons une première apparition du jeu, avec bien cringe, qui est le premier jeu de Montaigne, donc il prend parole une bonne fois pour toutes en laissant les ils, etc. Il dit ici que notre apparition dans ce nouveau monde a causé la déclinaison et la ruine du nouveau monde. Donc par notre contagion, il décrit son arrivée et l'arrivée des Européens par une contagion. Mais il dit aussi que nous leur avons bien menti au niveau des arts et de tout ce que nous possédons dans le monde européen. Nous leur avons bien cher vendu nos opinions et nos arts. Montaigne recommence une nouvelle phrase à la ligne 13 avec encore cette métaphore de l'enfance. C'était un monde enfant, suivi d'un point-virgule, comme pour le rappeler. Ensuite, des termes liés à l'esclavage ou à la violence, avec fouetté et soumis à notre discipline. Je pense que là, Montaigne veut rappeler l'esclavage qui était de vigueur à l'époque et à cette période-là. Mais je prends plutôt cette phrase comme fouetté et soumis à notre discipline, encore une fois, comme la métaphore de l'enfance avec peut-être une violence vis-à-vis des parents auprès d'un enfant, comme pour apporter une certaine éducation dans certaines familles. Donc, si nous ne l'avons pas fouetté comme une mère ou des parents fouetteraient leur enfant pour la discipline, justement, qui est rappelée juste après. Ensuite, il y a à nouveau une énumération de négations qui commence par la préposition ni, avec un champ lexical des qualités européennes, des qualités avec justice, discipline, valeur, force naturelle, bonté, subjuguer et magnanimité. Donc, là, c'est vraiment un éloge important du monde européen et des Européens en eux-mêmes. Ensuite, à la ligne 14, une nouvelle phrase nous explique qu'il y a eu des échanges entre Européens et sauvages, évidemment. Et il est expliqué ici que à la suite de ces échanges et négociations, comme répété ici, les Européens ont pu voir qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit, comme Montaigne écrit dans son texte, ainsi qu'en naturel et en pertinence. Donc, peut-être une première remise en question sur le fait qu'ils n'étaient pas si différents et qu'ils n'avaient rien, enfin qu'ils n'avaient rien à nous envier, évidemment. À la ligne 16, c'est un autre changement d'idée par Montaigne, qui commence par un oxymore entre épouvantable et magnificence, en parlant des villes de Cusco et de Mexico, dont les Européens ont été étonnés par la beauté et la bonne construction, si je peux dire, de ces villes qui étaient presque aussi importantes que les villes européennes, cependant avec moins de moyens évidemment, mais nous allons voir par la suite qu'il n'y avait rien à nous envier non plus en l'industrie. Montaigne va montrer que les sauvages avaient toutes sortes de choses avec un champ lexical très varié comme celui des richesses avec or, qualité, magnificence, beauté, tout ça. Tout ça renvoie à un certain pouvoir et oui, ils étaient non plus pauvres en richesses et en pierreries, etc. Ensuite, il y a des longues phrases expliquant la beauté et la richesse naturelle que le Nouveau Monde possédait avec une faune et une flore impressionnantes. Donc, on a le champ lexical de la nature avec arbres, fruits, mer, animaux, etc. À la lecture de ce passage, j'ai eu comme un sentiment de beauté, de lumière, etc. Montaigne a su faire passer un message comme si le Nouveau Monde était un paradis, un jardin d'Éden, possédant de nombreuses richesses alimentaires directement venues de la nature et contrairement aux Européens, il l'exploitait bien, comme expliqué. On peut voir aussi une connaissance importante des sauvages avec peinture, coton, etc. Montaigne conclut bien cet éloge du Nouveau Monde avec il ne nous cédait rien non plus en industrie, donc on peut voir ici qu'il fait l'éloge des sauvages encore une fois et qu'il montre qu'on pensait nous Européens en arrivant là-bas qu'on allait leur apprendre beaucoup de choses, mais Montaigne se rend compte qu'ils étaient bien avancés déjà et qu'ils n'avaient rien à nous envier. À la ligne 22, il y a un mais très important, comme encore une fois un changement d'idée ou un changement de point de vue de Montaigne. Je trouve ces dernières phrases ou ces dernières lignes très importantes, car il faut bien comprendre que Montaigne énumère à nouveau des qualités du peuple européen, mais il faut les comprendre, c'est mal dit, mais à l'envers, car ici il dit que si les Européens avaient ces qualités, et si les sauvages les avaient eues aussi, eh ben on n'aurait pas pu les conquérir, car ils étaient loyaux, libéralistes, etc. Et nous avons réussi à conquérir ce monde, car nous ne l'étions pas. Nous pensions être au-dessus en termes de qualité, tout ça, mais leur avantage, comme Montaigne dit dans les derniers mots, eh ben ça a causé leur perte, et ils ont été trop gentils et trop naïfs vis-à-vis de l'arrivée des Européens. Les Européens leur ont menti, et eux, tellement bons, loyaux, francs, etc., comme répète Montaigne dans une énumération d'adjectifs, et ben ça a causé leur perte. Et voilà pour l'explication linéaire du texte de Montaigne des Coches. Enfin, l'extrait des Coches, excusez-moi. Ensuite vient la question de grammaire. Alors, je vais relire la plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturelle et pertinence. Alors, la fonction, je dirais un COD de témoigne, et la nature une subordonnée, avec qu'il, le mot que qui revient, qui caractérise les propositions subordonnées. Je pense rien avoir oublié, je vais donc passer à l'explication de l'ingénue, car c'est l'œuvre que j'ai choisie. Malgré que j'ai été un peu surpris par les deux, car je pensais avoir un choix libre dans toutes les œuvres qu'on avait lues, et j'avais travaillé bel ami à vrai dire. Mais voilà, je vais expliquer ce que j'ai retenu de l'ingénue en quelques minutes, quelques lignes. L'ingénue est un conte philosophique écrit par Voltaire, le fameux philosophe et écrivain français. Il est né en novembre 1694 et mort en 1778. Alors, dans le conte, Voltaire raconte les aventures d'un Huron. C'est un Indien venant du Canada qui se retrouve en Bretagne, à Saint-Malo, et qui va donc devoir apprendre à vivre chez des Français, et donc une société complètement différente au XVIe siècle. Il va vivre de nombreuses aventures qu'on peut qualifier comme européennes, car il n'aurait pas eu à les vivre dans son pays, au Canada, en Amérique. Mais c'est un personnage auquel je m'y suis attaché, car il a un côté enfantin que j'aime beaucoup, avec des réactions parfois très, très drôles et très humoristiques. Mais j'ai bien aimé ce retournement de situation où on apprend que c'est quelqu'un de très cultivé et très intelligent, et j'ai beaucoup aimé ce contraste. En plus, comme son nom l'indique, l'ingénu est quelqu'un de naïf et innocent. Alors, Voltaire se sert de ce personnage pour critiquer la société, car c'est plus facile, à mon sens, de critiquer la société avec un personnage naïf et qui parle sans trop réfléchir et sans penser aux conséquences. Et je pense que c'est toujours plus facile de critiquer la société par le point de vue d'un étranger qui n'avait pas la même auparavant. Je sais pas si c'était clair. Mais je pense que le but principal de cette œuvre est que Voltaire montre et dénonce son avis vis-à-vis de la société du XVIe siècle. Cette histoire m'a parlé, car c'est un livre que j'ai lu récemment, et moi qui ne suis pas grand lecteur, comme vous le savez, j'ai apprécié le vocabulaire simple, sans trop de mots compliqués du XVIe siècle, etc. Et j'ai bien aimé le conte, car il y a une certaine histoire d'amitié forte entre l'ingénu et un personnage qu'il rencontra le long du texte. Et j'ai aimé ce sentiment d'amitié qui n'est pas, qui est plutôt rare dans les contes de cette époque. Voilà, madame, je pense avoir rien oublié et je vous envoie ça. Bonne journée, madame. Au revoir.